Et comme il nous reste encore 3-4 minutes avant qu'on ne commence, assurez-vous de souhaiter un très joyeux anniversaire à notre sœur Rosie Rosilette, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Rosie, comme plusieurs d'entre vous, c'est une rencontre virtuelle qui s'est passée à travers la COVID, donc à travers les bénédictions matinales et notre présence en tant qu'Église sur Internet. Donc on est heureux d'avoir fait connaissance avec plusieurs d'entre vous à travers cette dernière année, quelque peu hors norme. Bonjour Jimmy, Dieu te bénisse. Merci pour ton coup de pouce d'hier. Que Dieu continue à te soutenir. Salutations à Danica et aux enfants. Bonjour Sylvie, soyez bénie. On rappelle aussi, tel que je l'ai mis dans mon message de salutation de ce matin, n'oubliez pas que les inscriptions pour dimanche ont cours actuellement. Donc, vous pouvez soit appeler au bureau de l'Église, soit écrire à l'adresse courriel de l'Église. Vous nous indiquez votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone actif ou votre adresse courriel active et vous demandez à ce qu'on vous inscrive pour l'assemblée de dimanche. Vous nous indiquez aussi le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent et ces personnes, bien entendu, doivent être âgées de plus de 12 ans. Et pourquoi on vous demande un numéro de téléphone actif ou une adresse courriel active? Pour deux raisons. Un, parce que le gouvernement nous demande de tenir un registre des personnes qui sont là, donc pour s'il y avait un cas d'éclosion de la COVID au sein de la congrégation, on prie que ça n'arrive pas, mais si ça arrivait, la santé publique devrait être en mesure de vous contacter. Donc voilà pourquoi on le demande. Et aussi parce qu'aucune inscription n'est validé sans la confirmation du secrétariat de l'Église. Donc, on doit à tout prix vous écrire ou vous appeler pour confirmer votre place. Donc, assurez-vous de nous écrire ou de nous appeler pour. Il y a déjà le nombre qui commence à monter. On devrait être plus nombreux que dimanche dernier. Bonjour Yolaine. Que Dieu te bénisse. Tu veux dire bonjour aux gens, toi? Oui, tu veux dire bonjour aux gens, tu veux faire voir ton minois, oui, regarde ça. Ouais. On sait que tu es la star des médias sociaux. En tout cas, les miens. Encore une minute. Puis on va commencer. Profitez-en même pendant l'enseignement pour transmettre vos salutations à la sœur Rosie Rosilette, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On aime bien quand c'est l'anniversaire de quelqu'un pouvoir le souligner. Ça nous permet de nous donner l'illusion qu'on n'est pas trop éloignés les uns des autres. Ça nous permet de nous rapprocher un peu. Donc, ne ratez pas l'occasion de saluer la sœur Rosie Rosilette. Surtout qu'elle fait l'effort de nous regarder jour après jour, même le soir, alors que pour elle c'est très tard, puisqu'elle nous regarde de l'autre côté de l'Atlantique, en France. Donc, on est encore plus honoré qu'elle fasse l'effort d'être avec nous à des heures pas toujours faciles pour elle. Good morning, Tante Luce. God bless you. Alors, on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes. Encore une fois, Seigneur, c'est un privilège que nous avons de plonger nos regards dans ta parole, d'étudier ta parole et de recevoir de ta part la nourriture qui nous est nécessaire pour aujourd'hui. On sait, Seigneur, que cette parole est valide, efficace de toute éternité. mais plus encore, Seigneur, qu'elle a été préparée dans les mots qui vont être prononcés aujourd'hui, dans les illustrations qui vont être données, dans l'inspiration, Seigneur, que tu lui accordes. Cette parole, Seigneur, a été préparée de toute éternité pour toi, par toi, à notre occasion, à notre bienfait. Alors nous prions, Seigneur, d'être disposés pour pleinement recevoir ce que tu as pour nous. Défie-nous, challenge-nous, transforme-nous avec cette parole. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la majesté, la magnificence, la louange, l'adoration te reviennent à toi et strictement qu'à toi. C'est un honneur, Seigneur, d'être dans ta présence avec mes frères et mes sœurs. Alors, Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on continue notre étude dans Lévitique au chapitre 25, les versets 6 et 7. On a déjà vu les premiers versets à travers les dernières journées. On reprend les notions qu'on a partagées dimanche et on essaie de le développer un peu, peut-être donner d'autres illustrations bien fraîches de des explications que Dieu a pour nous. Alors je lis pour vous du verset 1 au verset 7 et par la suite je vais relire les versets 6 et les versets 7. Alors je lis pour vous Lévitique 25. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Pendant 6 années, tu n'en semenceras pas ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, ce sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'en semenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Et je relis pour vous les versets 6 et les versets 7. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, ton bétail et tes animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors ce matin, on parle encore une fois de la thématique de la jachère. Ce n'est pas un terme qui est usuel, à moins que vous ne fassiez partie de ce qu'on appelle le monde agricole. Très souvent, la jachère est un mot qu'on connaît très peu dans le langage usuel. La jachère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant une certaine période, après avoir bien travaillé, bien cultivé, bien moissonné un lopin de terre, l'agriculteur décidait de ne pas travailler son champ. Donc, pendant une période d'un an, ici demandé par l'Éternel, mais plusieurs agriculteurs pratiquent encore cette notion de la jachère, qui mettent un champ en repos, en sabbatique, dirons-nous. Dans l'agriculture, c'est fait essentiellement pour permettre à la terre de se reposer, de renouveler ses forces. Et il semble effectivement que plusieurs agriculteurs, en tout cas, en font mention, comme quoi ça fortifie la terre. Peut-être les anciennes semences, les anciennes racines qui se décomposent vont fertiliser la terre et qui va faire qu'après cette période de repos, ils vont produire davantage que précédemment. Dans ce passage, par contre, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on essaie de réfléchir pourquoi Dieu demandait-il certaines pratiques, dont la jachère, on se rend compte que c'est une épreuve de la foi. La jachère était l'occasion pour que l'ensemble du peuple d'Israël arrête de cultiver et que pendant cette année-là et les années qui vont en découler, puisque n'ayant pas le droit d'ensemencer, c'est comme si pendant 2 ans on se retrouvait sans récolte. Ce qui fait que le peuple d'Israël n'avait d'autre choix que de dépendre de Dieu. Alors on a pris la jachère cette semaine comme étant un prétexte à la foi. Et je pense sincèrement, du plus profond de mon cœur, que cet exercice de la jachère que Dieu imposait au peuple d'Israël était effectivement pour forcer chez lui la dépendance envers Dieu, pour forcer chez le peuple d'Israël la foi envers Dieu. Alors c'est cette notion de foi que nous étudions tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on va sortir essentiellement 3 points importants de la foi. La première chose que la Bible nous dit dans ce passage, et je le relis pour vous au verset 6, ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Alors, non seulement le peuple d'Israël et les propriétaires terriens n'avaient pas le droit de faire des victuailles avec la moisson de la septième année, ils n'avaient pas le droit de travailler la terre, mais de surcroît à cela, cette notion de la jachère et de la dépendance sur une provision divine était répandue non seulement sur le propriétaire terrien, mais sur l'ensemble de sa famille, sur l'ensemble de ses serviteurs et de ses servantes, et de surcroît à cela sur les mercenaires, donc les employés qui servaient chez lui, qui n'étaient pas des esclaves dans ce cas-ci, qui étaient tout simplement des gens qui étaient des professionnels qui avaient été affectés à des tâches et qu'on rémunérait, et de surcroît à cela même à l'étranger qui habitait en Israël. Et je suppose assurément qu'un enfant qui ne voit pas son père pour la première fois de sa vie, parce qu'il est rendu à l'âge de 6 ans ou de 7 ans, qui ne voit pas son père aller travailler au champ, qui ne voit pas son père affecter des serviteurs au travail des champs, je suppose que l'enfant va poser la question à son père, mais pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas préparer le champ? Pourquoi tu n'envoies personne préparer le champ? Pourquoi on ne fait pas de récolte cette année? Assurément, un serviteur pourrait aussi poser cette question à son maître. Un mercenaire qui n'est peut-être pas d'Israël pourrait demander aussi, mais pourquoi vous avez cette pratique? Un étranger qui passe à travers le territoire ou qui vient de s'établir et qui ne connaît pas nécessairement toutes les pratiques d'Israël pourrait aussi poser cette question. Et ce faisant, le peuple serait obligé de répondre aux questions en disant, ben, l'Éternel nous l'a demandé. Et ça force à ce moment-là d'expliquer qui est l'Éternel, notre Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui nous a libérés, et celui qui, à travers la pratique de la jachère, nous... Je m'excuse, je vais prendre une gorgée. Celui qui, à travers la pratique de la jachère ou du sabbat de la terre, nous impose donc de lui faire confiance et nous amène à dépendre de lui. Donc ici, la foi que le propriétaire terrien avait devait s'enseigner. Et la foi pour nous tous aussi s'enseigne. Elle s'enseigne, elle se communique et elle se propage. Assurément, le mercenaire, assurément, le serviteur, l'étranger, voire même l'enfant de celui qui ne va pas travailler au champ pendant une certaine période, va voir à un moment donné la provision de Dieu se manifester. Et là, ça sera l'occasion effectivement à ce propriétaire terrien de dire, mais ça c'est fantastique ce qui se passe actuellement et comment Dieu nous pourvoit à nos besoins, mais ça me rappelle ce qu'il faisait alors qu'on était encore dans le désert, quand il pourvoyait l'écaille et la manne jour après jour, et combien ça nous rassasiait, et combien c'était une provision divine. Donc la foi du chrétien, elle aussi, s'enseigne, se communique et se propage. J'ai régulièrement eu l'occasion de vous le dire. un des points essentiels où cette nouvelle tendance à la laïcité vient en conflit frontal avec la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne, à la base, est une foi qui se partage. Ça fait partie de qui nous sommes, ça fait partie des ordonnances même de notre Dieu et de notre Seigneur. Non seulement il fallait enseigner dans l'Ancien Testament les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, les réquisitions et les impositions de Dieu, il fallait être capable de les enseigner, mais dans le Nouveau Testament, idem, Jésus va dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce témoignage que nous rendons est effectif encore aujourd'hui. Ça fait partie de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien et te taire. Tu ne peux pas vivre véritablement la foi chrétienne et ne pas partager. Ici, lorsqu'on applique la jachère, ben, il va falloir expliquer aux serviteurs pourquoi je ne les envoie pas au champ aujourd'hui ou pour toute cette année. Il va falloir que j'explique à mes mercenaires pourquoi je ne les envoie pas labourer et cultiver la terre. Il va falloir que j'explique à l'étranger qui passe et qui trouve surprenant pendant X nombre de mois, au maximum 12, qu'il est chez nous, qui ne nous voit pas aller travailler au champ. Il va falloir que je leur explique non seulement ce que je suis en train de faire, mais pourquoi je le fais. Et voilà pourquoi simplement les œuvres ne sont pas suffisantes dans notre témoignage. Oui, appliquer les commandements de Dieu, c'est important et il faut le faire. Mais à un moment donné, il faut aussi il faut aussi comprendre que nous devons verbaliser le pourquoi nous faisons ce que nous faisons. La foi chrétienne est une foi prosélyte, est une foi qui se partage, est une foi qui s'annonce. Et trop de chrétiens sont tombés dans cette espèce de mensonge du diable que l'exemple que tu donnais par ton comportement était suffisant. Nous trouverons en enfer des gens qui ont fait de meilleures œuvres que toi et moi. Nous trouverons dans le chemin vers l'enfer des gens qui font encore des bonnes œuvres davantage et encore plus performantes que toi et que moi. La raison pour laquelle je fais des bonnes œuvres, c'est à cause de ma foi. Et cette foi-là se doit d'être expliquée. Tu ne peux pas te taire en tant que chrétien par rapport à ta foi. Et là, on rentre dans un conflit ouvert avec ces lois de la laïcité et ces lois sociales, voire même dans certains endroits des lois légiférées, qui voudraient que la foi soit maintenue tout simplement comme quelque chose du privé. Ça doit se faire, ça doit s'entendre strictement dans le privé de la maison, mais sorti de la maison, dans les lieux publics, on ne doit plus parler de foi. Ça va à l'encontre directe de nos principes, de nos croyances et des bases de la foi chrétienne. Et en ce sens-là, si le gouvernement venait me dire à moi, Florent, tu te tais et tu ne parles plus de la foi, dans ce contexte-là, j'entrerais effectivement en conflit avec l'État. Certains ont pensé ou certains ont affirmé, et je n'ai pas cette croyance-là, que la COVID était une invention pour faire taire l'Église. Honnêtement, je n'ai jamais prêché autant que j'ai prêché à travers les derniers mois. Honnêtement, je n'ai jamais témoigné autant que j'ai pu témoigner à travers les derniers mois. Pourquoi? Parce que le contexte actuel est propice à parler de la foi. En tout cas, moi, je le trouve tout à fait propice pour partager ma foi et je trouve que les gens sont plus enclins à entendre parler de la foi et à entendre parler quelle est notre position en tant qu'Église par rapport à ce qui se passe actuellement et quelle est la réponse que Dieu donne par rapport à ce qui se passe actuellement. On sait que les gens sont troublés, que les gens ne sont pas en paix, alors que nous avons le sujet de paix merveilleux à partager. Nous avons cette source de paix ineffable que nous pouvons partager avec ceux qui nous entourent. Alors la COVID, pour moi, est l'occasion rêvée de témoigner à droite et à gauche. Et honnêtement, durant toute cette dernière année, j'ai témoigné, je n'ai rencontré personne qui m'a envoyé promener. Je n'ai rencontré personne qui m'a dit de me taire. Tout le monde était intéressé, peut-être par politesse dans certains cas, mais tout le monde prêtait l'oreille à ce que j'avais à dire concernant la position de Dieu et l'apport de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ce moment qui peut être difficile pour nous tous. Donc la foi s'enseigne, la foi doit s'enseigner, la foi doit se communiquer et la foi doit se propager. Ici, c'était du propriétaire terrien jusqu'à son esclave, du propriétaire terrien jusqu'à l'étranger qui croisait, qui traversait sa terre plutôt. Donc pour nous aussi, nous devons prendre toute occasion pour témoigner, pour partager notre foi, et non pas simplement avec des actions, mais aussi avec nos paroles. Nos actions et nos paroles sont intimement liées, représentent l'ensemble de notre témoignage. Des paroles sans action, c'est un témoignage bancal. Des actions sans parole, c'est encore là un témoignage bancal. Le témoignage parfait, le témoignage complet se fait avec des paroles, avec des actions et avec la bonne motivation de cœur. Donc ça, c'est notre premier point. La foi s'enseigne, se communique et se propage. Ici, dans ce verset 6 et 7, on voyait que tout l'ensemble du peuple, depuis le propriétaire terrien jusqu'à l'étranger qui traverse le pays, l'ensemble de la population israélite allait devoir pendant l'année 7, l'année 8 et jusqu'à ce qu'on arrive à la récolte ou à profiter de la récolte future, devait pendant tout ce temps-là penser à ses besoins via la provision de Dieu. La manifestation de la foi, et je le disais dimanche, ouvre les greniers du ciel. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, notamment avec la question de la jachère ici pour le peuple d'Israël, ça ouvre les greniers du ciel. Il y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas les résultats d'une foi active parce que à la base, ils n'ont pas activé leur foi. Ils attendent la provision de Dieu pour après ça avoir la foi. Ici, Dieu disait, regardez, une fois que vous aurez fini de récolter tout ce qui se récolte durant l'année 6, à partir de la fin de votre récolte, vous arrêtez le travail dans le champ. Pendant toute l'année 7, vous ne travaillerez pas là, et c'est simplement à l'année 8 où vous commencerez à labourer la terre, donc à retourner la terre, puis à ensemencer et enfin à récolter. Mais ça, c'est simplement à la fin de l'année 8. Donc, ça veut dire que depuis la récolte de l'année 6, nous vivons en dépendance de Dieu. Nous vivons avec une foi qui est active, avec une foi qui dépend de Dieu. Et c'est avec cette foi qui dépend de Dieu qui fait qu'à un moment donné, on marche sur le chemin et là, on se rend compte que Dieu a pourvu de telles semences, Dieu a pourvu de tels aliments. C'est un peu comme si vous alliez vous promener dans la forêt québécoise et que vous commenciez à découvrir des aliments dont certains chefs réputés au Québec utilisent, que ce soit l'ail des bois, que ce soit la fleur d'ail qui pousse effectivement dans la forêt québécoise, que ce soit ce qu'on appelle les têtes de violon, qui est en fait la jeune pousse de la fougère. Mais c'est comme si vous allez maintenant à la ligne numéro 7, vous promenez dans le bois et vous voyez des aliments que vous méprisiez dans l'année 6, mais qui maintenant poussent en abondance et que c'est Dieu lui-même qui offre ça à son peuple. C'est comme si au lieu de faire tomber la manne et l'écaille comme il le faisait dans le désert, il faisait en sorte que naturellement la terre produise abondamment pour que le propriétaire terrien qui applique la jachère puisse dépendre de lui et manger à satiété. On va voir un verset qui le mentionne dans le verset 19, on le verra demain. Vous allez voir que la foi fait en sorte qu'on peut manger à satiété. Le Seigneur dit que tu vas te remplir à satiété, que tu vas manger à satiété. Mais qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger cette provision même de Dieu. Donc, comme deuxième point important ce matin, c'est donc de savoir effectivement que la foi ouvre les greniers de Dieu. Tu veux voir la provision de Dieu, tu veux voir la manifestation active de Dieu, active toi aussi ta foi. Commence à marcher par la foi. Commence à obéir à ce que Dieu te demande, même si cela te semble tout à fait illogique, même si cela te semble tout à fait contraire à l'agriculture normale ou à la pensée normale de « je vais travailler ». Et je vais bénéficier du fruit de mon travail. Dans cette période de la jachère, Dieu disait, je veux être la première priorité de votre existence pendant toute cette année. Je veux que vous mettiez l'emphase sur moi durant toute cette année. Je veux que votre dépendance soit totale envers moi toute cette année. C'est comme si on se provoquait nous-mêmes une disette, on se provoquait nous-mêmes une famine pour être abreuvé et nourri par Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire, à partir de demain, vous ne travaillez pas, à partir de demain, vous ne touchez plus à votre salaire, à partir de demain, vous ne dépensez plus un sou, et là, vous allez vous promener dans le jardin, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a de nouvelles pousses qui sont arrivées là, que vous n'avez même pas ensemencées. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, et c'est ce principe de la foi, c'est d'activer notre foi, de faire confiance à Dieu et de voir la provision de Dieu. Je parle régulièrement de ces moments de maladie que j'ai eu à traverser, mais je crois que cette prise de position que j'ai eue avec Dieu en lui disant « Seigneur, c'est correct, fais comme il te plaît, fais comme tu sais qui est parfait », je crois que cette prise de position a été une activation de ma foi et ça m'a permis d'expérimenter des choses que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Ça m'a permis d'expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant. Je savais que Dieu était avec moi. Je pouvais sentir sa présence comme jamais auparavant. Je sentais son inspiration comme jamais auparavant. J'avais une joie et une paix qui étaient pas de Florent. Je vous ai parlé de cette expérience un dimanche où à un moment donné, je suis en train de recevoir ma chimiothérapie et sans m'en rendre compte, je suis en train de sourire. Et je suis pas quelqu'un qui naturellement va sourire et on va voir ses dents à droite et à gauche parce qu'il sourit avec la bouche ouverte. Moi, je souris et j'ai un sourire très discret. On le voit pratiquement pas. Les gens se demandent sur des photos si je suis en train de sourire. Et c'est simplement les intimes qui me connaissent bien, qui savent où est. Là, on voit les lèvres de Florent qui montent un peu vers le haut et il est en train de sourire. Mais quand j'étais en train de prendre cette chimiothérapie, sans m'en rendre compte, j'étais en train de sourire et les infirmiers et les infirmières s'en rendaient compte. Donc, j'avais une joie qui émanait de moi. J'avais une joie que je vivais. J'avais une joie que j'expérimentais, une paix que j'expérimentais, qui ne venait pas de moi, qui ne venait pas de ma nature humaine, mais qui était une provision de Dieu. Et voilà pourquoi je n'ai pas été inquiet ou je n'ai pas été malmené par une dépression, par une mine qui était affaissée durant toute cette période-là, parce que Dieu pourvoyait suite à l'activation de ma foi. Donc la foi ouvre les greniers de Dieu. Ce que tu n'as pas, il le pourvoit avec l'activation de ta foi. Dernier point pour ce matin, la Bible nous dit ici que toi, tes enfants, ta famille, tes serviteurs, tes servantes, tes mercenaires, l'étranger qui traverse ton pays, vous allez en avoir assez de ce que la terre elle-même va produire. Et ça, c'est un point important. Ça veut donc dire que moi, en tant que chrétien, je dois être satisfait de la provision de Dieu. Ne pas tomber, comme je le disais dimanche, dans cette attitude du peuple d'Israël qui disait « on aurait été mieux de rester en Égypte parce que là-bas, on avait de l'ail, on avait de l'oignon, on avait des melons. Ici, on se ramasse simplement avec de la manne et peu importe comment on l'apprête, ça goûte tout le temps la même chose. On se ramasse avec des cailles et on voudrait autre chose. Au moins, en Égypte, on avait autre chose. » C'est complètement illogique dans ma tête. de penser avec plusieurs milliers d'années plus tard, là, bien entendu, de penser, regardez, il y a la manne qui tombe du ciel, vous êtes les seuls à manger ça ici-bas sur terre, vous êtes les seuls que Dieu nourrit comme il vous nourrit et qu'il envoie des cailles comme il les envoie sur vous, et vous préféreriez repartir en Égypte où vous étiez esclave, où vous mangiez du fouet, où on vous frappait, où on vous chargeait de tâches pénibles, terribles, et si vous ne rendiez pas la marchandise, ou si vous ne rendiez pas le rendement, ou si vous n'aviez pas le rendement que vous étiez supposé avoir, on vous frappait encore davantage et on exigeait constamment davantage de vous. Vous préféreriez être dans l'esclavage à cause de l'ail, à cause de l'oignon, à cause des melons. Dans ma tête, c'est illogique. Mais combien de fois on est tout aussi illogique, où on va mépriser ce que Dieu nous donne. On va dire, ouais, bon, c'est bien beau, Seigneur, que tu m'aides dans tel domaine, mais moi, je préférais telle autre chose. Ou le Seigneur dit, voici, je ne te donnerai pas un steak, un bon T-bone en bon langage québécois ou anglo-saxon. Je ne te donnerai pas la côtelette que tu veux, mais voici ce que je te donne. Et toi, tu regardes ce que Dieu te donne et tu dis, wow, c'est moche, c'est mauvais, j'en ai pas envie, je voudrais autre chose. Mais combien de fois on est méprisant par rapport à la provision de Dieu? Peut-être qu'à ce moment-là, pendant la maladie, j'aurais pu dire à Dieu, ouais, c'est beau la paix, puis c'est beau le sourire que j'ai à l'occasion, là, mais je préférais ne pas avoir de maladie, je préférais ne pas subir de chimiothérapie. Mais ce faisant, j'aurais été en train de mépriser ce que Dieu était en train de pourvoir. Et très souvent dans notre vie, de façon très subtile, de façon jusqu'à un certain point consciente, mais têtue, parce qu'on n'oserait pas dire à Dieu ce que tu nous donnes, on n'aime pas ça, ou ce que tu pourvois, on est insatisfait. Mais dans notre attitude, on languit après autre chose, on aspire à autre chose, et ce faisant, on n'apprécie pas pleinement ce que Dieu nous donne. Dans une période comme la pandémie, assurément, il est triste de savoir qu'on ne peut pas se réunir comme on faisait auparavant. Même si actuellement, bon, on peut se réunir à 100 personnes maintenant à l'église, et je vous invite à vous inscrire, c'est encore possible. Mais il y a des gens qui disent « Non, moi je ne vais pas m'inscrire parce qu'on porte un masque. » Oui, mais ça fait un an. Ça fait un an que tu n'es pas venu te rassembler avec tes frères et sœurs dans le contexte de l'Église. Et tu dis, moi, tant qu'il y a le masque, je ne viens pas. Parce que je n'ai pas envie de porter le masque. Parce que j'aime pas porter le masque. Parce que c'est agaçant porter le masque. Parce que Dieu m'a rendu libre. Alors moi, je veux être libre lorsque je loue mon Dieu. Mais ce faisant, tu te prives de la communion fraternelle que Dieu veut t'offrir. Tu te prives du partage avec tes frères que Dieu veut t'offrir. La Bible nous dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction à être rassemblé dans un même lieu, à célébrer Dieu. Assurément, tu as profité des bénédictions matinales jour après jour. Assurément, tu es de ceux qui sont fidèles devant leur écran à suivre les assemblées. Et c'est fantastique, et on apprécie la chose, et Dieu effectivement bénit à travers ces sources d'inspiration qu'il nous a données. Mais si tu as l'occasion de te rassembler avec les frères, oui, ça sera pas comme hier. Oui, ça sera pas comme l'année dernière. Oui, ça ne sera pas comme tu l'as fait pendant les 20 premières années de ta vie chrétienne. Mais tu as l'occasion d'aller célébrer ton Dieu malgré un masque, avec tes frères et tes sœurs. Alors, à moins que tu me dises, je crains vraiment la maladie, je suis dans une situation physique où c'est dangereux pour moi, où je suis propice à un cas de COVID qui serait difficile, qui serait exigeant, alors je préfère me tenir loin des rassemblements publics, je peux comprendre. Mais si ce n'est pas la raison, si c'est simplement, moi je ne veux pas louer mon Dieu avec un masque, alors voilà pourquoi je reste à la maison, tu te prives d'une occasion que Dieu te donne. Qui te dit que la, que cette provision des quelques semaines qu'on a devant nous à pouvoir se rassembler à 100 personnes. Qui te dit que ce n'est pas Dieu qui a ouvert ça? Qui te dit que ce n'est pas Dieu qui a forcé le gouvernement à prendre cette position pour donner une occasion aux enfants de Dieu de célébrer ensemble, au moins pour un moment, dans un même lieu? Alors je t'invite, mon frère, ne méprise pas la bénédiction de Dieu, ne méprise pas la provision de Dieu, ne méprise pas les occasions que tu as de te rassembler. Certains disent, moi je ne suis pas à l'église par Internet parce que c'est comme regarder une vidéo, c'est comme regarder un film. Et assurément, ce n'est pas comme aller, hein, comme aller à l'église et se rassembler tous ensemble. Mais si c'était la seule chose que nous avions, et si c'était la provision que Dieu nous donne durant cette période de COVID, durant cette période de confinement, si c'était à travers les moyens des réseaux sociaux et de l'Internet que Dieu manifestait sa provision. Ça veut donc dire que toi, tu dirais à Dieu à ce moment-là, « Je n'aime pas ta provision, je n'aime pas ta manne, je n'aime pas tes cailles, je voudrais autre chose. » Assurément, tu aimerais retourner à ce que tu avais avant. Assurément, on aimerait retourner à cette liberté qui était nôtre auparavant. Mais cette liberté, un, ne nous a pas empêché de prêcher Jésus. Deux, et vous l'avez vu à travers les dernières semaines lorsqu'on a eu des baptêmes, il y a des gens qui ont pris des décisions en raison de la COVID et qui se sont convertis pendant la COVID. Les baptêmes de ces dernières semaines, ce sont des fruits de ce que Dieu fait à travers cette COVID. Alors réjouissons-nous de ces fruits et profitons-en au maximum. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. La foi s'enseigne, la foi se communique et se partage, la foi ouvre les portes du grenier céleste, et enfin la foi se satisfait pleinement de la provision divine. Alors prions, après quoi on saluera quelques personnes. Seigneur, sois loué. Merci pour ta provision. Merci pour cette occasion que tu nous donnes depuis maintenant un peu plus d'un an de nous réunir jour après jour avec ce qu'on appelle les bénédictions matinales, que certains ont rebaptisé un peu leur déjeuner spirituel. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pourvu pour nous durant toute cette année, ce que tu continues à pourvoir. Moi-même, Seigneur, je suis béni par les partages que j'ai avec mes frères. Je suis béni par la parole qui m'est donnée, Seigneur, de partager. Je suis moi-même édifié. Mais de surcroît à cela, Seigneur, je tiens à te remercier pour toutes les forces que tu m'as données tout au long de cette année pour mener à bien ces bénédictions matinales. Parfois, Seigneur, j'étais fatigué avant d'appuyer sur le bouton « Entrer en onde ». Et pourtant, Seigneur, 5 minutes après, je réalisais que mes forces avaient été renouvelées et que tu me donnais exactement ce que j'avais besoin. Parfois, je me disais, à peine la bénédiction matinale sera-t-elle finie, je vais aller me coucher tellement je suis fatigué. Et je terminais la bénédiction matinale en pleine forme, sans aucune fatigue résiduelle. Alors, merci, Seigneur, pour ta provision de la nourriture pour ton peuple, de cette bénédiction matinale quotidienne pour ton peuple. Mais merci aussi, Seigneur, pour les ressources techniques que tu as mis à notre disposition pour le faire. Et merci pour les forces que tu nous as données, Seigneur, pour mener à bien ce merveilleux projet, cette merveilleuse, Seigneur, initiative et nouveauté, Seigneur, durant cette année. Je bénis ma sœur ce matin, je bénis mon frère ce matin avec, et je bénis la provision que tu pourvois pour eux aujourd'hui. Que tu puisses, Seigneur, les rassasier et que tu puisses, Seigneur, faire en sorte de parler à nos cœurs par rapport à toutes ces bénédictions que nous avons méprisées de ta part tout au long des années, peut-être même encore aujourd'hui. Révèle-nous, Seigneur, ces choses que toi-même tu nous donnes et qu'on regarde de travers, qu'on regarde de haut. Vois, Seigneur, nos cœurs. Instruis-nous si on est en train de languir sur autre chose que ta provision, que ce que tu mets entre nos mains. Et Seigneur, nous ne voulons pas mépriser ta provision, parce que mépriser ta provision, c'est un peu comme te mépriser toi. Alors nous voulons apprécier la provision et nous voulons apprécier le pourvoyeur. Qu'en toute chose, que toute la gloire te soit rendue aujourd'hui et jusque dans l'éternité, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je remonte un peu. Simplement pour saluer quelques personnes, on vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Rosie Rosilette. Vous avez encore quelques instants pour la saluer. Voilà, alors, si je vous ai déjà salué tout à l'heure, je ne vous renommerai pas. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à la sœur Babette et à son époux. Bonjour à Didier. Bonjour à Daniel. Buenos días. A ti también, Daniel. Bonjour à Chantal et à Léo. Bonjour à Charlotte. Bonjour à Tina et à Christophe. Bonjour à Juan Alberto. Bonjour à Farley, à sa maman, la sœur Marie-André. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour à Willy. Très content de vous avoir avec nous, Willy. Soyez béni. Bonjour à Natacha, Indiren et aux enfants. Bonjour Maggie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Consuelo. Bonjour à Rachel et aux sœurs qui sont connectées avec toi. Donc possiblement la sœur Mona, la sœur Ocilia, la sœur Chantal. Bonjour à Andrés et Samantha, bonjour à Suze. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors encore une fois, joyeux anniversaire à la sœur Rosie. Nos rendez-vous importants ce soir 19h avec le pasteur Sergio, l'étude biblique sur servir Dieu en temps de défi. Demain soir, réunion exceptionnelle, c'est le jeudi qui précède Pâques et à l'instar de Jésus qui va avoir pris la Sainte Cène, la Pâque avec ses disciples. 24 heures avant d'être mis à mort, donc le jeudi soir, nous aussi. On va donc prendre la Sainte Cène demain soir, 19h, en direct sur Facebook, la Sainte Cène. De surcroît à cela, vendredi, journée de jeûne et de prière, pas parce que c'est le vendredi saint, mais tout simplement parce que nous, on a l'habitude de le faire. Donc deux réunions vendredi matin, puis vendredi soir. Et enfin, on se retrouve par la suite dimanche. Donc, c'était les réunions importantes. Inscrivez-vous. Vous avez jusqu'à vendredi matin pour vous inscrire pour l'assemblée de dimanche. Les appels pour les inscriptions vont commencer ce soir même avec la sœur Patricia. Puis, une deuxième vague va avoir lieu vendredi après l'heure de tombée. Donc, vendredi en fin de matinée, il y aura une deuxième vague d'appels. Donc, appelez 514-273-8295 ou écrivez à l'adresse courriel de l'Église. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, préférablement un cellulaire, mais numéro de téléphone, ça va faire. Votre adresse courriel. Pourquoi? Parce qu'on doit garder un registre de toutes les personnes qui viennent au cas où il y aurait une éclosion au sein de l'Église. Ça permet à la santé publique d'avertir toutes les personnes en conséquence et de surcroît à cela, parce que pour venir à l'église dimanche, il faut que vous ayez reçu une confirmation. Disons qu'il y a plus que 100 personnes qui veulent s'inscrire, ce n'est pas encore le cas, mais si c'était le cas, ben là, on serait obligé de dire à la 101e personne et toutes les personnes au-delà qu'on ne peut pas les accueillir pour ce dimanche. Donc, aucune inscription n'est validée sans une confirmation officielle de la part du secrétariat et les confirmations commencent ce soir. Puis une deuxième vague vendredi. Alors appelez, écrivez pour qu'on puisse vous inscrire. D'ici là, préparez-vous pour la Sainte Cène de demain soir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.